20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Bonjour, 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 et c'est reparti pour un nouvel épisode de La Terreur Verte. Mais oui, La Terreur Verte, avec une nouveauté en catalogue. Et oui, car les dingos de la bougie, l'amicale du retour à l'âge des cavernes, le club des casseurs d'ambiance, veut maintenant s'en prendre à nos gosses et à leurs rêves. Pas les gosses, non! Nos petits chérubins d'amour, laissez les peinards, sortez de leur chambre! Touchez pas aux rêves carbonés qui détruisent le monde! Vous savez que dans ce podcast, on a déjà parlé des caricatures de l'écologie, et parce que c'est quand même un sujet sympa, on a décidé d'y consacrer un nouvel épisode. Car on pourrait simplement se moquer ou se dire que c'est pas la peine de répondre à tout ça, mais il ne faut pas se tromper sur ce qui se passe, c'est une opération de police pour empêcher tout changement. Avec moi pour en parler, Sarah.
Bonsoir.
Sonia.
Hello.
Et Marlène.
Salut.
Première question, puisqu'on parle des rêves, à quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant, Sarah?
Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être détective privée.
C'est pas mal comme métier, ça.
C'est hyper angoissant.
J'adorais Alice, détective privée, le Club des Cinq, Fantomette, toute cette bibliothèque rose, bibliothèque verte. J'avais une véritable passion pour ça. Et avec une copine, on avait créé notre agence de détective qui s'appelait l'Empreinte Verte.
Oh, mais ça, c'est précurseur.
Génial.
C'est pas mal.
On avait appelé un ou deux détectives privés qu'on avait trouvés dans l'annuaire pour lui demander s'il avait besoin
c'est
d'aide.
Énorme, ça.
On avait, on avait 11 ans, quoi. Et malheureusement, je n'ai pas atteint cet objectif. Je rêvais aussi d'avoir un ISPAC, par ailleurs, pour qu'on arrive de trouver mon cartable. Voilà, de
bon,
rêves,
des rêves
voilà. Ambiances.
Et toi, Sonia?
J'avais plein de rêves différents, mais pour être un peu cliché, j'avais tout simplement le rêve d'avoir plein d'animaux, d'être un peu une fermière, parce que j'ai vécu à Paris toute mon enfance, c'était horrible. Sinon, j'avais aussi le rêve d'être chimiste, et avec ma meilleure copine, on avait fabriqué de la pâte à modeler avec des craies écrasées, de l'eau, on était trop contentes.
Marlène, avais-tu des rêves?
Ouais, moi j'étais déjà féminazie et,
et zadiste. Ça, c'est la Marlène qu'on aime.
Puisque je rêvais d'être top modèle. Voilà.
Oh non, la chute.
Donc j'étais déjà, tu vois, justement, avec des rêves d'enfant parfaitement libres et libérés et émancipés. Voilà. Donc on pourra en reparler.
Moi je faisais aussi des défilés de mode avec mes Barbies.
Et j'aimais être une princesse. J'adorais me déguiser. Voilà.
Alors si on parle des rêves aujourd'hui, c'est parce qu'en avril. Donc il n'y a pas très longtemps, la maire de Poitiers, Léonore Mauconduit, a décidé de l'arrêt d'une subvention à un aéroclub. Alors, vous pouvez penser que c'est peut-être anecdotique, mais ça a fait pas mal de bruit. Et peut-être le plus simple, avant qu'on en parle, c'est d'écouter tout simplement ce que la maire a dit.
Sur la question de, pour en finir, sur cette, la question de l'attribution des subventions aux aéroclubs, sur le fond, il ne s'agit pas tant de... Il y a la question de l'urgence climatique qui implique de revoir... l'ensemble de notre logiciel. Il ne s'agit pas tant de... Ce n'est pas une position dogmatique, c'est une question de responsabilité vis-à-vis de l'argent public aujourd'hui. L'argent public doit envoyer un signal de responsabilité. Compte tenu du fait que ça ne menace pas la survie de l'association, aujourd'hui, nous considérons que l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables. C'est pour ce genre de décision qu'on a été élus aussi. C'est pour re-questionner toutes nos politiques au filtre du changement climatique. Et donc... Là, ça en fait partie, c'est un signal que nous souhaitons envoyer et que nous assumons, quand bien même c'est difficile, c'est un choix difficile à faire. Et je trouve ça, pour terminer, extrêmement... Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais mettre dans la même phrase rêve d'enfant et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent, en fait. Moi, c'était mon rêve d'enfant, de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde... Je pense que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves, en fait, auxquels on doit... Des rêves dont on doit préserver les enfants, en fait. Enfin, l'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui.
Je trouve que c'est un très bel extrait. C'est bien de l'écouter en entier, justement, pour bien comprendre qu'on n'est pas chez les dingos de la bougie, Sonia.
Oui, tout à fait. Elle a un raisonnement qui n'est, comme elle le dit elle-même, pas du tout dogmatique. Elle emploie tout un tas de mots très intéressants, de responsabilité, d'argent public. Et en fait, ce qu'elle pose, c'est la question des subventions publiques. C'est quoi une subvention? C'est de l'impôt payé par les contribuables pour être redistribué équitablement. Donc cet argent-là, il est là pour corriger des inégalités, investir dans des projets qui servent l'intérêt général. Alors, à plusieurs titres, on peut se demander si cet argent public, il doit payer un aéroclub. Et j'ai fait ma petite Élise Lucet en allant enquêter sur le prix d'un vol avec ces aéroclubs. Et donc, pour l'un d'entre eux, par exemple, un vol, c'est quand même 120 euros. Donc, ça concerne pas n'importe qui. Et ça concerne pas les plus pauvres. Est-ce qu'on a besoin d'investir, au-delà même de la question écologique, est-ce qu'on a besoin d'investir de l'argent pour des gens qui sont déjà aisés?
Alors, pour répondre à ce que tu dis, parce qu'il y a eu des arguments de ces aéroclubs de dire on ne fait pas que des vols motorisés, on offre justement des vols à des associations, etc. Je trouve que ce qui est quand même très intéressant, c'est souvent le cas, quand il y a une polémique, souvent quand on écoute tout le discours de Léonore Monconduit, effectivement, on se rend compte que non, ce n'est pas une hystérique qui veut... Elle dit elle-même que elle, quand elle était petite, elle rêvait de prendre l'avion. Elle n'est pas anti-avion. Elle explique juste que il y a un moment, en fait, on va arriver dans une situation où on ne pourra sans doute plus tous prendre l'avion comme avant pour préserver notre planète et qu'il faut s'y préparer. Et donc, c'est souvent intéressant de tout écouter avant de critiquer.
Mais pourtant, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas tout écouté. Il y a pas mal de caricatures. Alors, je dis des caricatures, ce n'est pas des choses qui se pensent comme des caricatures.
Non, on a notamment... Enfin, moi, j'ai été assez stupéfaite de la réaction de Daniel Cohn-Bendit. C'est surtout qu'en fait, on rentre dans...
Qu'est-ce qu'il a dit, Daniel Cohn-Bendit?
Je crois qu'il lui a dit d'aller se faire foutre, que lui, quand il était petit, il a pleuré quand il a vu des gens marcher sur la Lune et que, bref, c'était son rêve et on n'a pas le droit d'interdire ces rêves-là. Ce qui n'a aucun sens. Enfin, encore une fois, on n'était pas dans le même contexte. Et puis, c'est surtout, moi, ce qui m'agace, c'est qu'en fait, on va chercher... Il n'y a aucun argument. Il n'y a pas de débat. À la limite, qu'on ne soit pas d'accord, mais au moins qu'on pose un débat raisonné et qu'on écoute l'autre personne. Là, juste, c'est insultant, c'est méprisant et ça ne sert à rien, en fait.
C'est exactement ça. Moi, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec elle et qu'on dise, oui, on peut aller donner des subventions à des activités carbonées. On peut en débattre. Mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut débattre. Elle l'a dit d'ailleurs dans une interview plus tard, qu'elle regrettait d'être allée sur ce terrain un peu moral des rêves, parce que justement, elle s'est un peu fait piéger en allant là-dessus, alors que tout son discours est plutôt intéressant. Et puis, on rappelle quand même toute la polémique, puisque Jean-Baptiste Djebbari, qui est notre ministre délégué au transport, a proposé de donner la Légion d'honneur pour les présidents de l'aéroclub. C'est quand même un politicien de nul, sans rien d'autre que la politique politicienne de bas étage.
Il a reçu pour ça la palme d'or du boomer. On rappelle que cette palme d'or peut être attribuée indépendamment de l'âge. C'est juste pour ceux qui...
Et la palme d'or du Gorafi aussi, qui a tweeté, fait un commentaire en disant « Oh, et puis merde, vous l'avez bien cherché, démerdez-vous sans nous !» Tellement on arrive à une gorafisation de la société avec ce genre de proposition d'un ministre.
Surtout qu'elle le dit elle-même, les subventions sont divisées par deux la première année, puis ensuite supprimées, parce que c'est des associations qui ont une bonne santé financière. C'est 8 000 euros de subvention annuelle sur 300 000 euros de budget pour l'une. Pour l'autre, je ne sais plus exactement.
Mais ils sont où tes classeurs comptables?
800 euros de subvention pour 130 000 euros de budget. Donc on n'est pas en train de mettre la tête dans l'eau, tuer cette association.
Par ailleurs, c'est une question de priorité politique aussi, et ils font le choix d'investir cet argent non pas dans une association, comme je le disais au début, qui profite à des gens qui sont aisés, mais au contraire à des politiques de la ville, donc pour des gens qui en ont besoin. Et c'est ça le rôle, encore une fois, d'une subvention politique.
En fait, le rôle d'une subvention, le rôle de la décision politique, c'est pas parce qu'une activité est soutenue financièrement qu'elle doit l'être pour toujours. Les citoyennes et citoyens élisent des responsables qui, en leur nom, prennent des décisions dont ils sont comptables auprès justement des gens qui les ont élus.
Ouais, mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est que ça touche aussi à quelque chose de très sensible.
L'avion. Ce qui est sensible, c'est l'avion.
Voilà, parce qu'on en avait déjà parlé, déjà, c'est un secteur économique vraiment très important à l'échelle française. On en a beaucoup parlé, là, notamment avec la crise et la crise sanitaire, la pandémie. Et en fait, c'est souvent des chiffres qui sont très instrumentalisés. Donc, on va entendre des chiffres assez différents entre des militants écologistes qui vont dire que les émissions de carbone de l'aviation représentent 7% des émissions. D'autres disent que c'est 2%. Mais en fait, la question de ces chiffres, c'est pas vraiment ça la question. C'est aussi de se demander ces chiffres-là d'émissions de carbone, c'est à quelle échelle? Et moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout à l'échelle temporelle. C'est-à-dire que, en fait, sur les 30 dernières années, on se rend compte que les émissions de carbone provoquées par l'avion, en fait, dans le monde, ont augmenté de 2,8%, alors qu'elles ont augmenté de 1,2% dans tous les autres secteurs à l'échelle mondiale. Donc, on voit qu'on est sur un secteur qui est en pleine croissance à un moment où on devrait se poser la question de ces émissions.
Et surtout, je rajoute une petite chose, c'est qu'elle ne parle pas de couper des subventions à l'aviation, au transport de personnes ou de marchandises.
Oui, c'est un loisir.
C'est un loisir, voilà. Oui, c'est ça, effectivement. Non, non, c'est un loisir. Sonia.
Ouais, non, c'est vraiment passionnant ce que tu disais, Marlène, sur la manipulation des chiffres concernant l'aviation. Il y a un super article qu'on a tous lu, écrit par des chercheurs de l'ATECOPOL, l'Atelier d'écologie politique. Ce sont un groupe de scientifiques, en fait, qui ont analysé précisément tous les chiffres utilisés, notamment par les adversaires de ceux qui voudraient réduire les émissions carbone liées à l'aviation. Et juste pour vous donner quelques exemples de manipulation, par exemple, certains vont ne compter que le kérosène sans prendre la combustion, les émissions carbone liées à la combustion du kérosène, sans prendre en compte l'extraction, le raffinage, l'exportation. Ils vont aussi, plus choquant encore, calculer uniquement la consommation en France, alors qu'il y a assez peu de vols internes en France, sans compter les vols internationaux, ce qui est quand même d'une hypocrisie totale.
Et voilà, je rajoute quelque chose, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'ils ajoutent également que, en fait, si on prend secteur par secteur, et ben à chaque fois, on va finalement avoir des chiffres relativement faibles, mais tous ces chiffres s'additionnent les uns avec les autres. Et en fait, on va être obligé, on va être contraint dans quelques décennies de réduire drastiquement nos émissions de carbone, et donc il va falloir le faire de toute façon dans tous les secteurs.
Et donc, il ne faut pas prendre les chiffres de manière isolée les uns des autres, vous l'avez très bien dit. Et puis aussi, il faut leur donner un petit peu de profondeur historique. Ça veut dire simplement regarder comment ils ont évolué à travers le temps pour ne pas être bloqué sur une bataille de pourcentage là-dessus. Mais au-delà de cette sensibilité à l'avion, on voit bien qu'il y a la question du rêve. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question puisqu'on parle de ce si beau sujet du rêve. J'ai envie de vous demander, puisqu'on peut reconstruire une société joyeuse où on peut rêver d'autres choses que de transport carboné, tout le monde est déjà en train de danser et de chanter là autour des micros quand on dit ça. C'est simplement qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme rêve, autre rêve qu'on pourrait peut-être subventionner d'ailleurs.
Hein, Des rêves écolos,
si on se débrouille bien.
Moi, je voudrais que les grands singes ne disparaissent pas.
Oh, c'est mon rêve aussi, ça.
C'est vrai. Oh là là, franchement, je pense que dans une autre vie, j'aurais voulu aller m'occuper des grands singes, sachant que la pression humaine sur l'habitat des primates leur fait courir le risque de tous disparaître d'ici 25 à 50 ans pour les plus grands singes. Et c'est tellement incroyable de regarder des images d'interactions entre eux, entre ces grands singes et les humains. Ils sont tellement proches de nous. Voilà, j'espère qu'on les sauvera.
Moi, j'avais un rêve assez simple, mais qui est vraiment très égoïste. C'est que, en fait, depuis 4 ans maintenant, je fais de l'asthme dans une ville comme Paris. D'accord. Donc, j'aimerais bien pouvoir vivre dans un endroit où je respire correctement. Voilà.
Et peut-être vivre
un
en
rêve
ville,
assez simple.
Vivre en ville en respirant normalement.
Et peut-être vivre tout simplement, parce qu'il y a quand même 48 000 morts par an. Alors, je ne sais plus si c'est en France ou en Europe.
Ouais, en France.
Je crois que c'est en France. Ouais, donc c'est terrible. Donc voilà, tout simplement avoir le droit de vivre, c'est pas mal.
C'est ça.
Des rêves foufou. Non, moi j'ai un rêve aussi un peu foufou, ce serait de revoir un dodo vivant.
Ouais, j'hésitais avec ce rêve-là, moi aussi.
Alors, détrompez-vous, hein, parce que c'est un rêve qui viendra peut-être, parce que je crois que dans la tête de certains, des projets de genre Jurassic Park ne sont pas complètement...
Ah, mais c'est pas Elon Musk
Elon
encore
Musk, qui
effectivement,
veut
faire
un Jurassic Park. Donc voilà,
d'accord.
Vous pourrez peut-être
ils
voir...
Mais c'est pas écolo, Jurassic Park.
Non, mais comme ça se termine bien dans le film, ils se sont dit qu'on allait le faire.
Effectivement. Alors, s'il y a ces caricatures, on l'a dit en début d'émission, c'est facile de pouvoir peut-être simplement se dire, mais au fond, c'est des gens qui racontent n'importe quoi, pas la peine de les prendre au sérieux. Eh bien si, pourtant, on peut faire ce pari-là, c'est de dire que ces gens-là, on peut les prendre au sérieux et essayer de répondre un petit peu. Ça s'inscrit tout ça dans une rhétorique qu'on retrouve depuis très longtemps à propos de l'écologie, ça fait même des décennies qu'on caricature tout ça de la même façon, un cocktail hyper classique, hein. C'est vraiment le cocktail de base. Hein. C'est le mojito des réactionnaires.
Ouais, et puis surtout, tous les personnages, c'est vraiment le jeu des sept familles des écolos.
Alors...
Le rabat-joie, la miche, celui qui vit dans une grotte,
dépressif.
Celui qui est le nouveau communiste avec le couteau entre les dents qui
c'est
va
vrai.
Tuer les rêves des enfants. Voilà, le rouge pastèque, ah oui, ça c'est la nouvelle
le
mode, vous savez, le rouge vert. Voilà,
et puis, qui vient de Le Pen hein, d'ailleurs.
Voilà, super.
Et puis aussi, moi je trouve que ce qui est toujours très choquant, c'est ce procès en irrationalité qu'on fait aux écolos. Alors que, encore une fois, on l'a dit, on a écouté le discours de la mère. il est parfaitement structuré. Mmh. Il est parfaitement logique. Enfin, et c'est ce que tu disais, Sonia, c'est comment j'utilise mes subventions publiques en fonction aussi du vote des électeurs qui ont élu une majorité écolo.
Ouais, et puis c'est surtout, moi je trouve aussi, c'est aussi toujours les faire passer pour des rigolos. En fait, ouais. L'idée que, en fait,
Mais des rigolos pas rigolos.
Voilà, l'écologie, c'est quand même un grand rêve, une grande utopie. Mmh. Voilà, et c'est toujours avec des mots très péjoratifs. C'est quand même le président de la République qui a parlé des écologistes comme des Amish.
Tout à fait.
Alors même que quelques mois plus tôt, il y a quand même eu un vote en faveur de partis écologistes très important, ce qui est encore une fois très méprisant envers ces personnes et envers leur électorat.
Oui, donc c'est clairement le discours tenu par le gouvernement qui accuse les tenants d'une écologie punitive. L'écologie, donc vous avez bien dit, des Amish, tout ce discours dépréciatif que vous avez cité. C'est le discours, le vocabulaire de la contrainte, et c'est clairement une manière de discréditer un discours pourtant rationnel. Et pourtant, à l'inverse, le gouvernement va promouvoir une écologie des petits gestes, la fameuse écologie de la baguette de pain de notre cher ministre de l'écologie. Oui. Bravo pour la communication politique. Ils ont dû beaucoup travailler pour trouver ça. Et donc, si on est cohérent, il est là le discours accusateur, puisque c'est une écologie qui repose donc entièrement sur la responsabilisation individuelle.
Oui, étonnant.
Et oui, c'est ce match entre l'écologie de la raison, entre guillemets, et cette écologie prétendument irrationnelle, comme si tout ce qui se passait autour de nous dans la société de consommation était super rationnel. Et ça fait très longtemps d'ailleurs que ces caricatures-là sont installées.
Oui, et d'ailleurs, eux, au contraire, c'est un discours irrationnel qui repose sur la pure croyance, la croyance qu'on va être sauvé par la technologie, par la technique, avec des sources de production d'énergie propre,
la captation carbone incroyable.
Mais tout un tas de technologies qui n'existent pas et sur lesquelles on fonde nos croyances qu'on va pouvoir s'en sortir.
Mais surtout, moi, ce qui me dérange le plus dans ces discours, c'est en fait justement de rejeter sur les écologistes une certaine forme de violence politique.
Ouais, tout
là,
à fait.
Là où en fait, il y a beaucoup d'écologistes qui, pas tous, mais qui essayent de promouvoir finalement une société extrêmement différente, mais qui serait aussi peut-être plus juste, avec des rêves plus accessibles à tous aussi et plus, enfin, socialement plus équitables. Encore une fois, rappelons que le rêve de l'avion, c'est pas forcément un rêve équitable. Il est pas accessible à tous, et du coup, en fait, c'est justement continuer d'être dans une société où justement tout tient du rêve plutôt que de la réalité, et où en fait on espère toujours avoir quelque chose de plus plutôt que réussir à avoir une vie satisfaisante au quotidien.
Et puis méfiez-vous aussi des schémas binaires. On voit bien ça. Quand il y a un schéma binaire, on peut tout de suite être un peu suspicieux de type sectaire ouvert, les amis chez les partisans du progrès, etc. En fait, c'est des oppositions complètement artificielles qui rejouent quoi ? Une espèce de conte de fées, un match entre d'un côté les gentils, très gentils, et les méchants, très méchants. Et ces réflexions se retrouvent dans un super article de deux chercheurs qui s'appellent Quentin Hardy et Pierre de Jouvencourt. Et les deux auteurs analysent plein de livres et qui ont parlé d'un prétendu danger écologique. Ils décryptent ce danger écologique comme on vient de le faire. Mais alors, si ces rêves des enfants peuvent être complètement décarbonés, si on peut imaginer qu'ils peuvent être totalement différents, il y a cette question de la liberté, parce que dans les critiques, c'est ce qu'on a entendu. Laisser les rêves des enfants libres. Alors, est-ce que les rêves peuvent vraiment être libres dans le monde tel qu'il est organisé, dans ce qu'on trouve en bas de chez soi ou quand on rentre à la maison?
Ça se voit, je voulais être top modèle.
C'était un rêve libre,
un rêve,
ça, Marlène.
Libre, tu vois.
Non, c'est vrai que c'est incroyable.
Non, mais en tout cas, déjà, pour répondre en partie à ta question, on peut revenir sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire et qui a étudié des rêves dans deux volumes d'un certain nombre de personnes qui venaient de milieux, de classes sociales différentes, et il a montré comme il existait dans les rêves nos soucis, nos inquiétudes, nos préoccupations remontent, et donc on ne fait pas les mêmes rêves si on est au chômage ou si on a un emploi très sûr. On ne fait pas le même rêve si on a une vie familiale dans une grande maison où chacun a sa pièce, ou si on est plusieurs à dormir dans une même pièce.
Ou alors donc, pas de rêve du tout, ou pas de rêve du parce tout, qu'en fait il y a du bruit qu'on n'arrive pas à pioncer.
Exactement.
Voilà, pardon.
Donc voilà, le rêve, c'est un espace de mise en scène de nos problèmes, des tensions, des conflits qui nous parcourent, et donc déjà nos rêves sont influencés dans tous les cas par notre statut social, en fait.
Et ces rêves sont aussi construits collectivement, parce que cette question de la liberté, bah non, en fait, quand on regarde la publicité, par exemple...
Donc il y a des milliards dépensés, mais chaque jour presque, pour influencer nos désirs et nos rêves. Je voudrais vous citer juste un exemple. Donc il y a eu une étude de Santé publique France menée entre 2015 et 2018 qui a pointé, par exemple, le lien entre le marketing alimentaire, donc c'est ce à quoi ils se sont intéressés uniquement, donc avec tous les pubs pour les bons produits bien gras, sucrés, très bons pour la santé, évidemment. Évidemment, et le surpoids. Et donc, alors, cette étude s'intéressait particulièrement aux enfants qui sont, qui sont des bonnes cibles pour la publicité, pour bien rendre après des petits
enfants. Surtout quand tu leur mets des céréales avec des tigres dessus. Et
c'est
des
ça,
c'est beau, les
j'adore
tigres.
Ça.
Et donc, chaque jour, un enfant va visionner, chaque année, il va visionner plus de 1000 pubs. Donc, c'est déjà énorme, ça fait plusieurs pubs par jour. Et on compte en milliards cet investissement pour les influencer qu'ils mangent tous ces produits sucrés, gras, salés.
Quand j'étais petit, je jouais au jeu des pubs. Je ne sais pas si vous jouez à ça.
Ah bah
non,
ouais.
C'est quoi
ouais,
c'est
moi
génial
aussi.
Comme jeu, c'est de deviner. Mais du coup, j'étais super content d'être fort. Non, pas la prochaine pub, ça c'est quand même impossible.
Dès que ça commençait...
C'est Nostradamus dans ton salon. Quoi.
Je vois.
Non, j'ai pas cette capacité-là.
En vrai, c'est super facile. La dernière fois, j'ai regardé Top Chef. Franchement, une pub sur trois, c'est... voiture, barbecue, nourriture, glace.
Oui, c'est ça. Non, c'est simplement effectivement de deviner quand la pub est lancée.
Parce que
de quoi,
c'est comme
ça
un blind
veut dire
test,
que
quoi.
Tu les as beaucoup vus, effectivement. Ouais. Blind test du consumérisme,
c'est
Marlène.
Ça. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est fascinant de cette idée et cette instrumentalisation qu'il y a eu autour du rêve des enfants. C'est vraiment drôle parce qu'en fait, les rêves des enfants sont complètement construits. Enfin, les nôtres aussi, d'ailleurs, évidemment. Et on le voit avec la publicité, on le voit avec les clichés, les stéréotypes de genre qu'on retrouve dans la pub. Voilà, donc je voulais être top modèle quand j'étais gamine. Les gamines, en fait, elles veulent s'habiller en rose. Tout ça a évidemment une influence. Et encore aujourd'hui, il y a eu des études sur des magasins de jouets qui montrent très bien que 90% des jouets qui sont faits pour les filles sont roses.
Ouais.
Donc, je me souviens même qu'une fois, on avait voulu acheter un doudou pour une copine, pour son gamin, et que même les doudous de nouveau-né sont roses.
Ouais.
Voilà. Donc, bref.
Non, et puis... en plus, aujourd'hui, on en rajoute 4 fois plus avec les réseaux sociaux. Demain, les panneaux électroniques, électriques dans les métros. C'était Ruffin qui disait sur France Inter...
Donc François Ruffin,
qui est député
de la France Insoumise.
Exactement, Ruffin, c'est notre
pote. Sarah, elle a un réseau, vous imaginez même pas. C'est incroyable.
François, quoi, pour
et
les intimes.
Soyez attentifs à la candidature Sarah 2022.
Ça arrive. Et non, qui disait dans une interview sur France Inter en novembre 2019 qu'on croisait environ 5000 marques par jour. Et en fait, en vrai, il y a des études qui ont été menées qui disent qu'on est même plutôt au-dessus. Parce qu'en fait, tu croises des marques en permanence. Tu croises quelqu'un qui a logo Nike, Lacoste, etc. Et donc, c'est des chiffres complètement faramineux. Et donc, bien sûr, tout ça, ça nous fout des trucs dans la tête. Je veux un ISPAC. Ça, c'est mon rêve d'enfant. Bon, et je crois qu'il n'est pas parfaitement libre.
Non, et ce qui est particulièrement pernicieux avec les réseaux sociaux et par exemple Instagram, où nous vous invitons à nous suivre pour nous poser des questions.
Oui, on a nos contradictions, mais on essaie d'en faire un truc sympa.
Donc
et
sur
pas
Instagram,
trop...
qui est quand même
puis on l'assume.
Un putain de vortex, c'est que tu commences et en fait, ça mélange les images de tes amis et des images de gens qui sont présentés comme tes amis, mais qui en fait te font de la pub pour des produits et qui ont ce doux visage amical et souriant, mais en fait, qui est un pur influenceur là pour te vendre des produits pour maigrir ou je ne sais quoi encore.
Ouais, tout à fait.
Alors la pub se mélange, alors la fin de l'émission approche, émission d'ailleurs, on peut le dire, sans pub. Hein.
Bravo.
En fait, on a fait du petit placement de produits.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
On est assez malin. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez gaffe, c'est qu'on est très très malin.
Et on roule sur l'or.
Voilà. On s'en met plein les poches.
Non, mais c'est du placement de produits politiques.
Ouais. Il y a pas que ça.
On vous dira pas pour qui
on roule. Non, plus sérieusement.
Votez Sarah 2022. Pardon, excusez-moi.
C'est ça exactement. C'était comment l'écologie peut aussi reconstruire certains rêves, c'est-à-dire d'autres manières de rêver, parce que l'écologie n'est pas forcément uniquement un truc de contraintes, de privation.
Pour moi l'écologie, on l'a dit depuis, je pense que c'est une ligne qu'on a beaucoup défendue dans ce podcast, mais c'est rêver d'une société dans laquelle on arrête d'exploiter les autres et la nature et d'avoir une société un peu plus juste et un peu plus équitable.
En fait, ce podcast, c'est un peu le rôle d'une psychanalyse accélérée. En fait, c'est pour vous faire prendre conscience de tout ce qui tout ce qui vous détermine et après arriver à être un peu plus libre dans vos propres rêves.
Et on prend conscience de tout ça en même temps, d'ailleurs.
Oui, pour nous, c'est notre propre
thérapie. Après, on va manger un steak.
Oui. Et oui, alors, vous l'avez bien vu, les rêves sont politiques. Ce n'est pas parce qu'ils sont intimes, ça c'est vrai, on ne dira pas le contraire, qu'ils ne sont pas aussi fabriqués par toute la société. Et justement, la société, nous en tout cas, et quelques autres heureusement, on peut tout à fait avoir envie de rêver à autre chose et de laisser de côté peut-être pour de bon les rêves carbonés. Merci et à très vite.
Salut,
à très vite.